Cyril, C-Y-R-I-2-L-E, Beraud, B-E-R-A-U-D. 669 Wiseman, à Montréal. Président, 31 mars 1962.
Donc, M. Beraud, je comprends que vous êtes le président de Savoir-Faire Linux, qui est la demanderesse dans cet instant-ci. On va commencer avec quelques questions, effectivement, concernant Savoir-Faire Linux. Vous décririez, vous avez décrit votre entreprise comme étant une entreprise de consultant en informatique, c'est exact?
C'est une des activités que nous avons.
Vous avez d'autres activités?
Oui.
Qui sont?
Nous faisons de la formation, nous fournissons des services d'intégration, de support et de développement, d'installation de logiciels.
Toujours en informatique?
Toujours en informatique et spécialisé en particulier dans le logiciel libre, mais pas uniquement.
Mais pas uniquement dans le logiciel libre?
Bon. Mais essentiellement.
OK. Combien avez-vous d'employés?
De mémoire, à ce jour, je crois que nous avons 21 employés.
Est-ce que c'est des employés à temps plein?
Ce sont des employés, je parle d'employés à temps plein. Nous travaillons aussi avec 2-3 consultants externes régulièrement, des pigistes.
Consultants externes, vous voulez dire des genres de contractuels aux besoins ou d'autres firmes?
Ça peut nous arriver de travailler en collaboration avec d'autres firmes, mais là, je parle de consultants externes à leur compte. Par exemple, un développeur spécialisé dans une technologie particulière qui peut intervenir ponctuellement.
Dans la structure, vous êtes le président. Est-ce qu'il y a d'autres officiers de la compagnie que vous?
Vous voulez parler de l'organigramme organisationnel de la compagnie? J'ai un vice-président et directeur qui n'est pas officier de la compagnie, hein, qui n'est pas administrateur, plus précisément.
D'accord.
À Québec, j'ai un directeur général également qui couvre toutes les opérations.
Au niveau de... Oui, excusez. Terminé.
J'ai également un responsable de la formation, un directeur commercial et un directeur de toute la division de développement.
Vous avez combien de bureaux ouverts et en opération?
Donc, on a le siège social est à Montréal, 72-75 Saint-Urbain, c'est donc là où on opère principalement. Il y a le bureau de Québec, rue du Parvis, et on a un bureau également à Ottawa, sur la rue Slater.
Quelle est la répartition des employés dans chacun de ces bureaux-là?
Nous avons 3 employés à Québec, nous avons un employé à Ottawa, et le reste est à Montréal, sachant que la plupart des consultants et des intervenants travaillent des fois sur plusieurs bureaux.
Êtes-vous le seul actionnaire de Savoir-Faire Linux?
Je suis le seul actionnaire. En fait, précisément, les actions de Savoir-Faire Linux sont détenues à titre privé par moi à 50%. Et par une compagnie holding, le projet Beluga, à 50%, et je détiens 100% de cette compagnie holding.
Parfait. Maintenant, vous avez, dans le domaine de la consultation ou de l'implantation, le type de personnel que vous avez là. Mettons que dans le contexte qui nous intéresse, c'est-à-dire dans un contexte de faire, si je comprends bien par vos procédures, de faire une implantation de Linux et de OpenOffice dans une entreprise, donc, ou dans combien de personnes participeraient à un tel projet? Et qu'est-ce qu'ils feraient, ces personnes-là?
Mais on pose des questions très hypothétiques. On se tient à la demande ici, là. Vous n'avez même pas fourni de devis, rien, puis on demande là, ce que vous feriez.
Non, je demande d'une façon générale, pour faire une implantation, je demande tout simplement pour faire une implantation Linux et OpenOffice dans une entreprise, actuellement, c'est actuellement, combien de personnes et quel type de personnes participeraient à un projet comme ça?
On s'entend que dépendant du projet, la compagnie Linux peut planifier d'embauche.
Maître Esco, répondez pas à la place de votre client. Si vous objectez à la question, dites-le clairement. Je pense qu'il est capable de répondre. La question est très simple.
D'accord. Vous avez... vous avez en fait votre question sur le profil des consultants que nous avons chez Savoir-Faire Linux. Ce sont pour une grosse partie des ingénieurs en informatique. Et puis, quand je parle d'ingénieur, ce n'est pas le titre de l'ordre, mais c'est le type de formation. Donc, c'est des bacheliers, des masters, voire des doctorats en informatique. Et puis, nous ouvrons la porte également aux passionnés de l'informatique liés à l'économie d'Internet. Je dirais que il faudrait que je vérifie, mais c'est probablement deux tiers, un tiers. Ce sont des intégrateurs, c'est-à-dire, vous le savez, le logiciel libre, ce sont des composants logiciels qu'on trouve sur Internet, essentiellement, qui sont mis à la disposition de tous. Et l'essentiel de la plus-value que nous apportons à nos clients, ça va être de prendre ces composants logiciels et de bâtir des systèmes d'information adaptés. Ce sont des experts dans ce type de technologie-là. Donc, pour... ce sont à la fois des développeurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables de modifier le code de ces composants pour les adapter aux besoins du client. Ce sont des intégrateurs, s'ils connaissent bien les systèmes et les machines. Ce sont aussi des formateurs, d'ailleurs la plupart sont également formateurs.
Bon. Maintenant, dans vos services d'intégration de logiciels libres, tel qu'on va prendre l'exemple de Linux pour OpenOffice, on ne s'écartera pas dans d'autres choses. C'est ce qui nous intéresse. vous fonctionnez de quelle manière de tels services et de tels contrats? À forfait, suivant une tarification? De quelle manière vous fonctionnez habituellement?
Alors, on n'a pas de règle générale, si ce n'est de celle de s'adapter aux exigences de notre marché et de nos clients. Donc, il y a des clients, effectivement, qui nous demandent de travailler au forfait. Il y a des clients qui nous demandent de travailler à l'heure, des banques d'heures. Il y a toutes sortes de possibilités. On n'impose aucune manière.
OK. Maintenant, quel est leur qualification, leur profil, c'est quoi la grille tarifaire pour une intégration?
Eh bien, là aussi, ça dépend beaucoup du volume. Donc, au niveau des grilles publiques, donc ce qu'on appelle la liste publique de prix, ce sont en général qui couvrent des interventions ponctuelles et très déterminées dans le temps, c'est-à-dire des petites interventions. Ça va de... Deuxième critère, est-ce que ce sont des interventions qu'on fait à distance ou sur place? Eh bien, ça va entre 90 et 150. 90. La réalité de l'heure de l'heure. La réalité des opérations, en fait, après négociation, on arrive à des tarifs qui vont de 60 dollars de l'heure jusqu'à 150, en fonction là, du volume et de l'ampleur et du type aussi d'intervention.
Maintenant, est-ce que ça inclut les déplacements à ce moment-là, lorsque ce n'est pas fait à distance?
La règle générale, c'est oui. Pour Montréal et sa région, et la ville de Québec. Enfin, la région de Québec.
D'accord. Est-ce que votre entreprise a déjà fait une implantation de Linux et d'OpenOffice avec migration à partir de Windows puis Office XP ou suite office. Vous avez déjà une expérience pour une entreprise d'une telle, implantation, avec migration des fichiers et tout ça.
Oui, de l'ampleur du projet, du nombre de la RRQ, par exemple, nous n'avons pas d'expérience en termes d'importance, mais sur des plus petits mandats, je dirais que c'est presque notre travail du quotidien.
Bon. Petit mandat,
ça va.
Je veux dire, pourquoi pas petit mandat?
Quelques postes.
10 postes.
Probablement. Voire plus. Vous savez que le mandat, le type de, dans le secteur dans lequel nous sommes, le logiciel libre, nous donnons la liberté, nous donnons la possibilité à l'organisation souvent de s'approprier son système d'information, les composants. Donc souvent, il s'agit de mettre le client, le pied à l'étrier du client, c'est-à-dire de lui montrer, c'est d'où mon hésitation sur le nombre, lui montrer comment on va opérer sur 2-3 postes, et lui-même souvent va prendre en charge le reste, puisqu'il a cette liberté justement de le faire. Donc dans la PME, par exemple, de 40, 50, 100 personnes, on a pu le faire pour quelques postes, et souvent l'équipe informatique, une fois qu'elle a acquis l'expertise, va être... Mais de toute façon, on est le logiciel libre est une technologie qui a émergé depuis une dizaine d'années au niveau des entreprises. Donc l'essentiel de notre travail, et ça dépasse le cadre d'OpenOffice, ça n'est qu'un des composants dans les projets de migration. Ce sont des projets de migration. C'est-à-dire qu'on est, on a un environnement qui est soit Microsoft, soit Novell, soit d'autres, par exemple Apple même. Et il s'agit de migrer ces infrastructures ou d'une partie de ces infrastructures ou des composants de cette infrastructure vers ces nouvelles technologies.
Alors souvent, c'est selon les besoins. Ça peut être une partie de l'infrastructure qui va passer à Linux pour pouvoir utiliser certains logiciels plus spécifiques. Mais dans le secteur public, est-ce que vous avez eu des expériences où, semblable à la régie, mais je ne parle pas de volume nécessairement, mais c'est-à-dire que de passer toute la structure...
Non, on a commencé à travailler, c'est un projet de la Commission de la protection du territoire agricole qui, vous savez, est un site pilote au sein du gouvernement pour l'utilisation du logiciel libre, qui est une structure, je crois, de 200 personnes, je le dis de mémoire, là, il faudrait vérifier, et qui est en train de migrer l'ensemble de son infrastructure vers des solutions en logiciel libre. Et on nous a demandé, c'est en préparation du mandat, d'étudier quel type de problématiques on pourrait rencontrer. Donc c'est des choses qu'on...
Non, mais vous n'avez pas effectué une migration, là. C'est pas
si, ça. Si. Par exemple, un des composants, par exemple, qui est, je crois, il y a la même problématique à la régie des rentes, c'est qu'il y a des applications qui génèrent des documents automatiquement à partir de Word et d'une base de données. Nous avons réalisé à la CPTAQ, ils avaient exactement la même situation, et nous avons réalisé à la CPTAQ la génération automatique, non pas à partir de Word, mais d'autres composants qui généraient des fichiers avec des formats ouverts, des fichiers PDF, pour être clair. Donc c'est typiquement le même type de mandat, un des aspects qui d'ailleurs était important, je crois, pour la RRQ, avons réalisé.
Monsieur Béraud, si je comprends bien, vous avez conseillé pour créer une nouvelle fonctionnalité
Non, c'est une fonctionnalité qui existait à partir de composants propriétaires et que nous avons migré vers des solutions logicielles libres. Okay.
Est-ce qu'il y a eu une installation, par exemple?
Elle est en production.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu, dans ce cas-là, une installation de tous les postes de travail sous Linux?
C'est un projet qui est prévu.
Un projet qui est prévu,
mais donc, il n'est pas encore réalisé. Okay.
Donc, si je comprends bien, la Commission de protection du territoire fonctionne encore sous Windows pour ses postes de bureautique.
Il faudrait leur demander, mais à ma connaissance, oui, ou en partie en tout cas.
Donc, vous avez juste J'avais juste collaboré à la mise en place d'une amélioration de fonctionnalité.
Non, c'est pas une amélioration, c'est le remplacement d'une application qui existait, une des fonctionnalités de la suite Office de Microsoft. On l'a migré vers des composants libres. Cela constitue du reste une amélioration.
Ben oui, j'espère bien. Maintenant, par rapport, donc, si je comprends bien, les seules installations de bureautique pour tous les postes de travail du personnel de passage à Linux et OpenOffice, vous en avez fait seulement dans des petites entreprises sur une échelle d'environ 10 ou 20 de postes où, dans certains cas, vous avez aidé à partir quelques postes, puis l'entreprise elle-même a fait le reste, l'équipe informatique. Est-ce que c'est exact ce que je dis?
C'est tout à fait exact.
Parfait. C'est une réponse que je veux, M. Béraud. Sinon, ça peut être bien long si vous épiloguez beaucoup. C'est pas vous empêcher de parler, mais c'est parce que c'est pour résumer. Et vous avez dit tantôt que vous n'avez aucune expérience dans un tel déploiement, intégration.
Nous avons une très grande expérience. Alors, d'abord, nous utilisons toute l'équipe en interne ce type d'outils depuis plusieurs années. Et comme toute entreprise, nous avons, même si nous sommes spécialisés en informatique, nous avons les mêmes besoins que la plupart des entreprises et nous sommes confrontés aux mêmes nécessités fonctionnelles pour le système d'information de notre propre entreprise. L'ensemble de ces composants...
M. Béraud, je veux vous interrompre. Je ne veux pas dire par là, je ne veux pas vous compreniez par là que vous ne seriez pas capable de le réaliser. Ce n'est pas le but de la question, c'est savoir si dans le passé, vous connaissez, vous avez fait une telle réalisation. Si vous n'avez pas fait une telle réalisation ou contribué directement à une telle réalisation, c'est le cas, c'est tout, c'est la seule question. Bon, maintenant, on va aller... Vous le regardez, l'avis d'intention. Je vous ai remis l'avis d'intention, numéro d'avis DA2481 de la Régie des rangs, qui a été publié le 21 décembre 2007. Vous avez ça entre les mains.
Oui.
Est-ce que ça correspond bien à la pièce que vous avez produite? Sous R7.
Bien, dans le fond, moi, j'ai produit la pièce qui était publiée sur le site électronique d'appel d'offres du gouvernement.
D'accord.
Donc, si vous voulez qu'on vérifie que toutes les lignes correspondent, on peut peut-être...
Vous pouvez le vérifier, mais comme je vous ai dit, il s'agit d'une photocopie de l'original, telle que signée par le président directeur général de la Régie des rentes du Québec, M. André Trudeau. Je vous donne le temps de vérifier si c'est bien ça. On ne veut pas faire de piège là-dedans, là.
Ben là, c'est parce qu'on voit mon temps estimé et duré là, dans le document disponible publiquement sur Internet. C'est un tableau, alors qu'ici, là, c'est des paragraphes. Donc là, il faudra voir la lettre.
Parce que vous avez une mauvaise photocopie, je crois.
Ah, il manque des pages.
Oui. C'est pas une page.
Votre photocopie, elle même pas.
Ah, ça se pourrait bien qu'il est allergique.
Merci.
Tout le monde a la même chose. Hein? OK. J'ai eu la même chose dans mon dossier. Faites-vous-en pas, Maître Sico. Monsieur Béraud, est-ce que votre entreprise est en mesure de fournir à la Régie des rentes du Québec les logiciels qui sont mentionnés à l'avis d'intention, soit plus précisément les besoins, dans le paragraphe des besoins, la page 1. La Régie désire acquérir la licence suivante pour, je cite, là, les postes de travail, Vista Business, Office Professionnel Plus 2007, Visio Standard 2007. Est-ce que votre entreprise est en mesure de fournir ces logiciels?
Nous ne sommes pas distributeurs des produits de Microsoft.
Donc, la réponse est non? Est-ce que... La question est très claire. Est-ce que vous êtes capable de fournir ces logiciels-là?
Eh bien, il faudrait que je devienne distributeur des produits Microsoft.
Et vous ne l'êtes pas?
Eh bien,
est-ce que vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas?
Mais...
Monsieur Béraud, la réaction est très simple.
Nous pourrions acheter les produits, ils sont disponibles à l'achat sur Internet.
Bon, je vais poser ma question différemment. Mais... Excusez, Monsieur Béraud, mais ça va être long si vous ne répondez pas aux questions. Écoutez, Monsieur Béraud, à la date de l'avis d'intention, 21 décembre 2007, jusqu'au 11 janvier 2008, votre entreprise était-elle en mesure de fournir ces logiciels-là que je viens de mentionner? Vista Business, Office Professionnel Plus 2007, Visio Standard 2007. Votre réponse?
Il faudrait que je vérifie parce que le Savoir-Faire Linux est partenaire Microsoft.
Pardon?
La compagnie Savoir-Faire Linux est partenaire Microsoft.
Mais je vous demande si vous êtes un distributeur.
Je devrais le vérifier, je pense que nous pourrions effectivement proposer à nos clients des solutions...
Non, ce n'est pas la question.
Si,
je vous ai demandé, est-ce que vous étiez en mesure de répondre au marché proposé et de fournir les logiciels, les licences suivantes?
Nous aurions pu demander à un distributeur de le faire pour nous.
Donc, ce n'est pas votre entreprise qui l'aurait fait.
On aurait pu répondre et faire appel à un distributeur, comme Ameublement du Québec l'a fait, ou d'autres compagnies. J'aurais pu demander à d'autres distributeurs de soumissionner...
Savoir faire Linux comme tel. Vous n'aviez pas les ententes nécessaires pour ça.
Mais les ententes, il n'y a pas besoin d'entente, je crois, particulière pour vendre.
Êtes-vous un distributeur, êtes-vous un revendeur de produits Microsoft?
La réponse,
excusez-moi,
c'est que j'aurais pu soumissionner avec ce type de solution en demandant à un fournisseur accrédité ou autre de me fournir les licences et donc de répondre. Donc ça, c'est la réponse exacte, oui. Mais telle n'était pas notre intention.
Vous n'aviez pas l'intention de répondre, donc je comprends bien.
Nous pensons que les besoins exprimés par la Régie des rentes pouvaient être adressés par d'autres solutions, qu'il existait d'autres solutions pour adresser en termes de technologie informatique qui répondait parfaitement aux besoins de la Régie des rentes.
Bon, donc, c'était pas votre intention. De toute façon, si la Régie faisait, par hypothèse, avait fait un appel d'offres pour obtenir les licences de Vista Business, Office Professionnel Plus 2007, puis Visio Standard 2007, en appel d'offres, là. C'est ce qui est demandé. Supposons qu'on aurait procédé en appel d'offres. Vous n'auriez pas soumissionné parce que ce n'est pas votre intention de fournir ces logiciels-là.
Non, je vous avez mal compris ma réponse. Je l'ai mal exprimé peut-être. On aurait pu répondre, par exemple, avec des solutions partiellement avec des licences Microsoft et par exemple, le système d'exploitation et pour les suites bureautiques. Tout ça, les suites bureautiques en utilisant OpenOffice. Ça aurait été une solution possible. Et à partir d'un appel d'offres, avec les spécifications techniques publiées par la Régie des rentes, on aurait pu proposer des solutions intermédiaires à partir de composants libres. Vous savez que les logiciels libres sont souvent très bien supportés par la plateforme Microsoft. Donc, si on avait identifié dans les spécifications techniques des composants que nous ne pouvions pas trouver d'alternatives en logiciel libre, on aurait pu trouver une solution intermédiaire, donc qui aurait permis... est-ce que je suis plus précis là dans ma réponse?
Oui.
Et donc là, nous aurions fait appel, soit nous-mêmes en achetant les licences auprès de Microsoft et en vendant, soit un distributeur pour la partie qui nous intéressait, et l'autre partie avec des logiciels libres.
Donc par exemple, vous auriez pu, sur une appel d'offres qui serait plus ouverte, plus générale, moins spécifique, vous auriez pu arriver à dire, bon, ben, on peut vous proposer la suite OpenOffice pour votre bureautique comme solution, puis Vista Business comme système d'exploitation. Ou pas? Continuer sur Windows ou pas?
Enfin, c'est une question hypothétique. C'est justement le fait que cette requête existe parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et que justement, les fournisseurs n'ont pas pu obtenir les spécifications des besoins et n'ont pas pu y répondre en conséquence, d'une manière précise. Donc les hypothèses, on peut en faire de nombreuses.
Maintenant, à part les échanges de courriels mentionnés à votre requête avec la Régie des rentes du Québec, c'est-à-dire à partir de l'avis d'intention que vous mentionnez au paragraphe 16 de votre requête, si je comprends bien, à part au paragraphe 9, vous parlez que vous avez fait parvenir l'attention de M. Nadeau. De quelle manière vous avez fait parvenir ce message-là, ou votre R8, la pièce R8, c'est un courriel, c'est une lettre?
Oui, c'est un courriel.
C'est un courriel envoyé à M. Simon Nadeau?
Oui.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres courriels avant la réponse, la demande, d'informations complémentaires du 7 janvier 2008? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses entre le 25 décembre? C'est-à-dire qu'il y a eu la réponse le 31 décembre de M. Nadeau?
Oui, c'est ça.
En fait, je réfère aussi à la requête elle-même, là. Juste m'assurer qu'on a... vous avez... Le 25 décembre, vous écrivez à M. Simon Nadeau, à la Régie. Mm-hmm. M. Nadeau vous répond le 31 décembre. Le 7 janvier, vous envoyez un autre courriel élaborant 4 points. Mm-hmm. Le 10 janvier 2008, M. Nadeau répond, vous fournit des informations additionnelles, mm-hmm. et vous invite à une rencontre à Québec qui devait se tenir plus tard. Est-ce qu'il y a eu, entre le 10 janvier et le 25 décembre, est-ce qu'il y a eu d'autres échanges de courriels?
Écoutez, à ma connaissance, non.
À votre connaissance?
Je pense que tous les courriels que nous avons échangés sont dans les pièces jointes à la requête.
Est-ce que vous avez eu des échanges avec le Centre des services partagés sur le même sujet?
Pendant cette période-là, sur la requête, sur l'avis d'intention, concernant l'avis d'intention?
Oui.
Non.
À la suite de l'avis d'intention, est-ce que vous avez eu des échanges avec le Centre des services partagés?
Pas à ma connaissance. En tout cas, pas concernant cette requête et ce marché.
Concernant ce marché-là. Donc, entre le 25 décembre et, disons, le moment où vous avez... et le 12 mai 2008, est-ce que vous avez eu des échanges avec le Centre des services partagés au sujet de ce marché-là? avec d'autres entités gouvernementales?
Et on a de nombreux ministères qui sont des clients de nos services. Donc, il y a juste, pour être précis, il y avait suite à un échange de courriel que j'ai eu avec le Conseil du Trésor, on m'a invité à prendre contact avec M. Di Marco Antonio pour voir la politique d'utilisation du logiciel libre. Et j'ai fait donc une demande de rendez-vous à M. Di Marco Antonio.
Qui est qui, monsieur Di?
C'est qui, c'est monsieur Di Marco Antonio est, je crois, un poste de directeur au ministère des Services Partagés et est responsable de la, des questions autour du logiciel libre. En tout cas, il m'a été identifié comme ça par le Conseil du Trésor. Il est d'ailleurs en copie de nos échanges, sur la plupart des échanges avec M. Nadeau, c'est ça, notre Racico? Notamment la pièce R10. Je ne sais pas si vous retrouvez son nom, là dans la pièce R10. Il est en copie de notre échange avec M. Nadeau. Je m'excuse, je ne connais pas le titre exact qu'a M. Di Marco Antonio. Vous voyez en copie, c'est la dernière personne en copie.
Di Marco Antonio. Okay. Courant de la situation avec la Régie des rentes, j'imagine, à titre d'exemple de...
Non, pas à titre d'exemple. C'est-à-dire qu'il m'a été identifié par le Conseil du Trésor. J'ai un courrier là-dessus qui n'est pas dans la requête que je peux, on peut vous fournir, comme étant en charge des questions du développement du logiciel libre au sein des administrations publiques québécoises. Donc j'avais pris aussi également un rendez-vous avec lui, qui en raison de la requête, me semble-t-il, en tout cas, c'est peut-être une interprétation erronée, a été reporté.
Ok. Bon, maintenant, venons-en à la rencontre qui a eu lieu au bureau de la Régie des rentes le 17 janvier 2008. Est-ce que vous avez reçu, est-ce que lors de cette rencontre-là, vous avez pu obtenir des explications supplémentaires sur les raisons, les motifs de la Régie d'acquérir les logiciels de Microsoft, là? Je ne les répéterai pas tous, on va les appeler de même les trois logiciels en question, Vista, Office et Visio. Est-ce que vous obtenez des informations supplémentaires à celles qu'on retrouve dans l'avis d'intention?
Dans la substance, non. C'est-à-dire que les arguments développés par M. Nadeau ont été peut-être développés d'une manière plus technique ou plus fine. Mais dans la substance, non. C'est-à-dire que... voilà.
C'est-à-dire, dans la substance, c'est quoi pour vous la substance?
La substance, c'est ce que énonce M. Nadeau dans son courriel qu'il m'envoie pour me donner les raisons. Je vous renvoie à ses arguments.
Mais pour vous, ça serait quoi? Quelle explication auquel on ne vous a pas répondu, là?
Je vous dis,
qu'est-ce que vous voulez savoir de plus?
Ah, mais je sais tout. J'ai très bien compris les explications qu'on m'a données.
À savoir?
Eh bien, je vous renvoie à la lettre de M. Nadeau. Donc, ce sont... c'est la question, c'est la justification de l'utilisation de l'article 12.4.
Oui.
Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je vous lise le mail de M. Nadeau?
Non, vous pouvez me le résumer dans vos mots. Votre compréhension à vous, là. Non, écoutez, le document est là. Je ne vous demanderai pas d'aller. Je vous demande votre compréhension.
Ma compréhension?
Votre compréhension. Eh bien, c'était que la régie...
Je étais en droit d'utiliser l'article 12.4, puisque... Mais c'est un résumé, hein.
Allez-y.
C'est en raison de la familiarité, du fait que les outils Microsoft étaient bien appréciés par l'équipe, et que des problèmes de compatibilité entre d'autres... Enfin, que d'autres solutions amèneraient des problèmes de compatibilité qui semblaient, bien que je n'ai pas reçu de documents précis là-dessus, qui semblaient rédhibitoires pour envisager d'autres solutions.
Okay. Maintenant, lors de cette...
Il y a eu de nombreux autres arguments. Là, c'est une conversation qui a duré plusieurs heures, au moins deux heures et demie.
La rencontre a duré deux heures trente?
De mémoire, écoutez.
À la rencontre, il n'y a pas juste M. Nadeau qui était intervenu pour donner des explications?
Tout à fait. Il y avait l'équipe technique, essentiellement informatique.
Est-ce que vous avez eu des explications un peu plus techniques par rapport au nombre d'utilisateurs, au nombre de postes? Est-ce que vous vous souvenez combien de postes de travail il fallait qui étaient concernés par la mise à jour là, demandée, le logiciel?
Mais cette
non, répondez à ma question.
Vous me parlez sur ce qui s'est dit pendant la
non,
la
je
réunion.
Reprends ma question. Je vous demande, est-ce qu'on vous a donné comme renseignement supplémentaire, l'avis d'intention ne mentionne pas le nombre de postes. Est-ce qu'on vous a mentionné le nombre de postes qui est touché par l'acquisition des logiciels?
Nous sommes venus à la rencontre parce que, et nous sommes ici avec cette requête parce que justement il n'y a pas eu de document précis technique
Monsieur
qui exprimait
Béraud,
les besoins de la régie des rampes
Monsieur Béraud,
du Québec.
Béraud, Maître Escaud, pouvez-vous dire à votre client de répondre aux questions?
Je réponds.
Ça va être très long. Je sais bien qu'on a l'avant-midi puis toute l'après-midi, mais ça ne vous dérange pas, moi non plus, sauf que...
L'avis
d'intention ne mentionne pas le nombre de postes.
Ce qu'il demande, c'est à la réunion.
Oui.
À la réunion, est-ce qu'on vous a donné le nombre de postes qui étaient concernés?
Oui.
C'est quoi le nombre de postes concernés?
Je n'ai pas les éléments ici.
Si je vous dis que c'est 1600 postes, est-ce que ça a du bon sens?
Ça a du bon sens. C'est dans l'ordre de grandeur.
Puis le nombre d'utilisateurs, 1200 utilisateurs, mm-hmm. Ça a du bon sens?
Oui.
Bon. Donc, on vous a bien expliqué que ces 1600 postes de travail-là étaient évidemment sur la plateforme Windows et que la régie avait l'intention de passer à Vista pour la plateforme d'exploitation et par rapport à la bureautique, de passer de Office, je pense qu'on avait Office XP, à passer Office Professionnel Plus 2007, pour les 1600 postes.
C'est
bien ce que vous avez compris?
Oui.
Bon. Et est-ce qu'on vous a expliqué, est-ce qu'on vous a indiqué le nombre de logiciels qui sont rattachés à ces postes-là ou à plusieurs de ces postes-là pour faire fonctionner diverses fonctionnalités, le nombre de logiciels qui fonctionnent sur Windows actuellement et qui, en raison d'un passage à Linux, faudrait remplacer. Avez-vous eu des explications là-dessus? L'avez-vous eu?
J'ai pas eu d'explication.
Parlé de nombre de logiciels et de certains logiciels particulièrement.
Effectivement, l'équipe technique m'a parlé que d'après eux, il y avait un certain nombre d'applications qu'il serait difficile de migrer vers d'autres solutions. Je leur ai demandé si une évaluation avait été faite de ça. La réponse a été non.
D'accord.
Donc c'est des explications, c'est des arguments hypothétiques qui m'ont été donnés, mais effectivement, pour répondre à votre question, il a été évoqué un certain nombre d'applications connexes liées qui tournaient sur les plateformes. Alors, ce ne sont pas des explications qui vont être données.
Je ne suis pas un expert en informatique.
Moi, je le suis. Moi, je le suis.
Oui, je vous comprends. Mais si je comprends bien, ce qu'ils vous ont expliqué, c'est qu'ils ont, ils ont certains logiciels et applications. Par exemple, le centre d'appel, 3-4 logiciels qui fonctionnent, qui ont été, j'imagine, acquis pour fonctionner sur Windows et qui, comme ça, ne pourraient pas fonctionner sur Linux.
Ça, c'est vous qui le dites. Il y a beaucoup d'applications qui tournent sur Windows qui peuvent tourner sur Linux. Il faut le vérifier.
Et si la vérification avait été faite, vous, est-ce que c'est plausible de penser qu'il y a quand même des logiciels à la régie importants qui du jour au lendemain ne pourraient pas fonctionner sur Linux, comme ça, là, tout simplement? Est-ce que c'est plausible?
Je ne peux pas vous répondre à cette question parce que je n'ai pas eu les spécifications. S'il y avait eu un appel d'offres avec des spécifications techniques à remplir, les compagnies auraient pu vérifier et répondre. Donc, c'est hypothétique.
Bon, je comprends que c'est hypothétique, mais je veux dire, vous étiez en face quand même, vous aviez des spécialistes devant vous vous disaient franchement, en toute franchise, qu'à l'égard de certains logiciels, ils ne fonctionnent pas sur Linux. Et c'est très possible qu'effectivement, comme ça, ne fonctionnerait pas sur Linux.
Ce que je savais d'une manière certaine, c'est que de nombreuses administrations publiques avec des besoins similaires de la Régie des rentes du Québec avaient réussi des migrations d'une manière tout à fait adéquate. Donc, il n'y avait pas de raison de penser a priori qu'il y avait des besoins si spécifiques à la Régie des rentes et des problématiques si spécifiques qui ne puissent pas être adressées pour peu qu'on ait des documents techniques précis.
Je comprends. Alors, Monsieur Béraud, disons qu'on vous donne un document qui donne pas mal toutes les fonctionnalités de la régie, et on vous donne aussi tous les logiciels qu'on utilise un peu avec l'architecture, tout ça. Ce que vous pouvez faire, si je comprends bien, vous pouvez, en tout ou en partie, proposer d'autres solutions pour utiliser du logiciel libre, en tout ou en partie.
Oui.
D'accord. Maintenant, si la régie décidait de changer de plateforme d'exploitation et de changer à Linux et à OpenOffice, en rapport avec toutes les 300 autres logiciels qui fonctionnent, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'assurer que tout ça fonctionne? Qu'est-ce que la régie ou vous pourriez faire pour que tout ça fonctionne, connaissant les fonctionnalités et tout ça? C'est quoi le travail que ça demande? Est-ce qu'on peut à supposer qu'il y a un certain nombre de logiciels qui ne fonctionnent pas sur Linux? On fait qu'on les remplace par un logiciel libre? Quelles sont les solutions possibles? Je vous parle des solutions possibles que vous pouvez apporter.
Maître Robillard, je ne peux pas, sans document technique, je ne peux faire que des hypothèses.
Je comprends.
S'il y avait eu un appel d'offres, et du reste, c'était l'objet de notre réunion avec la RRQ, d'interroger comment se faisait-il qu'on n'ait pas de documents spécifiques. Je vous rappelle la règle sur les marchés publics qui impose à ce que quand cela est possible, qu'il y ait le plus grand bassin d'entrepreneurs et que les documents et que tout ça se fasse de manière transparente. Je n'ai pas reçu de spécifications techniques, qui d'ailleurs, à mon avis, doivent exister.
Je comprends. Maintenant, là,
ça m'aurait permis de faire une évaluation précise et financière et technique.
Donc, dans le fond, votre souhait, ça serait d'obtenir toutes ces spécifications-là.
Mon souhait, c'est qu'il y ait un appel d'offres, oui, tout simplement. C'est ça l'objet d'un appel d'offres.
Il y a de l'expérience là-dedans. Si vous arrivez dans une entreprise et il y a un problème, ils ont un système d'exploitation sur Windows, et puis ils ont des logiciels qui fonctionnent plus ou moins bien, qui fonctionnent bien, et ils cherchent vraiment à changer ça pour économiser, puis avoir une plus grande efficacité, et aussi, comme vous dites, pouvoir peut-être développer eux-mêmes, puis posséder mieux leur système. Est-ce que ça nécessite généralement de changer également certains logiciels ou certaines applications qui ne fonctionnent pas sur Linux? Ça peut arriver. Ou bien, est-ce que vous me dites de façon générale, 99% des logiciels qui sont faits pour Windows puis qui n'ont pas été faits pour Linux vont fonctionner sur Linux? C'est un peu ça que je voudrais savoir. Je connais pas ça.
Venez suivre des formations chez nous.
Non, je ne veux pas devenir spécialiste. Non, mais est-ce que vous me dites que dans le monde du logiciel libre...
Les projets de migration de cette ampleur, puis de ce type-là, montrent qu'on est capable d'adresser techniquement la plupart des problèmes. Et que de toute façon, ce type de technologie, je parle des logiciels libres, qui sont en fait constitués de logiciels qui utilisent des standards et des normes de communication entre les composants. Excusez-moi, vous vouliez que je vous pose une question technique, je vais vous répondre techniquement. Libres permettent de s'interconnecter avec la plupart des systèmes, donc on peut envisager, je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, des solutions partielles, donc avec des composants propriétaire, type Microsoft ou autre, qu'on va laisser en l'état, et puis d'autres qu'on va faire évoluer. C'est par exemple une expérience que nous avons gagné un appel d'offres pour l'Agence spatiale canadienne, où il y avait parmi les composants des solutions Microsoft Active Directory. Il s'agissait d'intégrer avec des solutions libres, et ça s'est fait avec beaucoup de succès.
Mais ils ont maintenu, je comprends que ils ont maintenu quand même la plateforme d'exploitation Windows.
C'est un des composants du système.
Ça dépend.
C'est un des composants mineurs du reste du système. Okay.
Donc, nous, à la régie, il faudrait, si je comprends bien, que la régie fasse un appel d'offres qui serait morcelé, en ce sens que vous voulez un appel d'offres pour pouvoir offrir vos services ou vos logiciels libres pour les fonctionnalités ou les applications qui, selon vous, pourraient fonctionner. Avec toutes les spécifications, je comprends bien, là. C'est ça.
Maître Robillard...
Si on vous donne un devis là, qui donne toutes les fonctionnalités, vous seriez capable d'y répondre partiellement, tout le moins.
De ce que je connais peu de choses, puisque je n'ai pas eu ces spécifications.
Non, je comprends.
Mais a priori... Je pense que nous aurions pu répondre à une très très grosse partie, voire tout.
Non, mais c'est parce que vous avez donné l'exemple du centre d'appel, les lettres modèles de la régie. Vous nous avez donné des exemples tantôt que vous seriez capable d'apporter des solutions là-dessus. Vous l'avez fait ailleurs.
Je ne peux pas m'engager là-dessus.
Je comprends votre prudence, mais vous avez quand même un peu d'informations. Et vous êtes en mesure de dire ce que vous avez appris de peu d'informations, vous auriez probablement des solutions de logiciels libres pour certaines fonctionnalités. Je ne dis pas toutes, là, mais certaines.
Non, peut-être toutes. D'autant que notre compagnie, comme j'ai introduit tout à l'heure, couvre des services d'intégration, de formation, de développement et de consultation. Donc c'est par la nature de nos activités que je vous réponds.
Je comprends.
Et non pas à partir des éléments que je n'ai pas. Justement, c'est pour ça qu'on est là.
Et tout ça peut se faire dans un environnement qui pourrait être maintenu sous, par exemple, la plateforme Windows ou Vista. Vous pourriez agir dans ça aussi.
Ah, mais le logiciel libre, c'est le... ce sont des composants logiciels qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, et notamment c'est le cas d'OpenOffice, tournent très très bien sur des plateforme Vista ou XP ou d'autres plateformes Microsoft.
Okay.
le choix d'aller vers un seul fournisseur ou vers plusieurs fournisseurs, là, ce aurait été le choix de la régie des rentes en partie d'un appel d'offres. D'accord. Et c'est vrai que l'utilisation de ce type de technologie, comme elle est partagée par de nombreuses entreprises et qu'elle n'est pas exclusive, permet cette liberté de ne pas seulement s'adresser à un seul fournisseur. Et ils auraient pu optimiser probablement pour la formation, chercher le meilleur, l'intégration, chercher les meilleurs, minimiser encore, peut-être, encore, c'est hypothétique, les coûts.
Mais disons que on parle juste de Linux puis OpenOffice, dans le contexte que vous connaissez, là, du nombre d'utilisateurs, du nombre de logiciels, sur un appel d'offres où on vous donne les fonctionnalités, puis on vous demande qu'est-ce que vous êtes capable de faire, est-ce que vous recommanderiez de passer à Linux pour tous les postes de travail, par exemple?
Monsieur Robillard, il n'y a que l'étude détaillée des besoins de la RQ qui permettrait de répondre.
Mais ça serait pas nécessairement envisageable a priori. Là.
Je constate que les expériences qui ont eu lieu ailleurs, oui. dans le même type d'administration publique, même voire beaucoup plus important, ont permis de répondre complètement. Je pense à l'expérience de la gendarmerie nationale en France actuellement, 80 000 postes sont migrés tant sur Linux que OpenOffice. Je pense même à l'administration dans sa totalité des Pays-Bas qui a interdit depuis cette année l'utilisation du propriétaire. Ce sont des éléments de la requête, donc vous les connaissez. Ouais. Donc ces deux éléments me mettent confiant à répondre à ce type, à vous répondre à vous, et vous dire oui, probablement, on serait capable de remplir les besoins de la régie des rentes à partir de logiciels libres, à moindre coût.
Bon. Donc, si je reviens à votre paragraphe 25 de votre requête, vous dites, que, en conclusion, constatant qu'aucune étude sérieuse et approfondie n'avait été réalisée sur la capacité d'une solution logicielle libre à rencontrer les besoins informatiques spécifiques de la régie, je vais arrêter là. Ça serait quoi, ça, une étude sérieuse et approfondie? Pour vous, c'est quoi, ça?
C'est l'article 12.4 qui inscrit ça. Je pense que le législateur avait une idée très précise de ce qu'il entendait par là. Et c'est pas à moi d'interpréter cela.
Non, mais je ne vous demande pas de l'interpréter. Vous, ça serait quoi pour vous? Qu'est-ce que la régie devrait faire comme étude sérieuse? Est-ce que c'est de décrire, comme vous disiez, toutes les fonctionnalités de la régie, une description de l'architecture des fonctionnalités de la régie? Et aller en appel d'offres pour obtenir.
Alors,
est-ce que ça a du bon sens ce que je dis?
Je vais vous dire ma perception. La perception que j'ai eue lors de cette rencontre, c'est que les arguments qui m'étaient donnés étaient à chaque fois des arguments tellement généraux et qui étaient tellement loin des besoins spécifiques de la régie que. Et ça a été. Je pense pouvoir le dire, reconnu à l'ensemble des membres de la Réunion qui n'avaient pas eu d'études spécifiques et comparatives. Je vous rappelle, le 12.4 énonce qu'il n'y a qu'un seul fournisseur possible à partir de besoins spécifiques. Il n'y avait pas d'études comparatives. Les solutions libres sont déjà suffisamment connues et développées pour qu'elles ne soient pas connues par les membres de l'équipe informatique de RRQ. Donc il y avait, et il est apparu de manière assez manifeste que parmi les membres de l'équipe technique, il n'y avait pas des personnes qui avaient les compétences même pour mener cette étude comparative. C'est pour ça que j'ai proposé la mise à disposition d'un expert qui aurait pu travailler conjointement avec les équipes de la RRQ pour mener à bien cette étude approfondie.
Quand, ben, cette étude-là, consiste à faire quoi, selon vous?
Là encore, la réalité des besoins fonctionnels de la régie, qui ne sont pas connus, déterminerait la marche à suivre.
Donc, il faudrait faire une description des besoins, des descriptions de toutes les fonctionnalités, l'architecture, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est ça?
Ben. C'est peut-être pas aussi... Je ne peux pas répondre. Je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir répondre.
Vous comprenez que... Pour conclure, parce que, en fait, la régie concluait qu'elle n'a pas fait d'études sérieuses et approfondies. Puis là, la régie, moi qui est l'avocat de la régie, je vous demande qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse. Et vous avez de la misère à me le dire. Ça serait quoi? Une étude approfondie, il faudrait une description de toutes les fonctionnalités, les logiciels, l'architecture qu'on a pour pouvoir...
Les plus importants, oui, essentiellement, c'est la faisabilité qui doit être étudiée.
La faisabilité de quoi?
De répondre... La faisabilité de quoi? La faisabilité de la régie, apparemment, a un certain nombre de besoins en termes informatiques.
Oui.
Est-ce qu'on est capable de faire ça avec d'autres... Est-ce qu'il existe d'autres solutions? C'est la loi qui impose, c'est l'article 12.4 qui impose cette recherche.
Ok. C'est-à-dire que...
Donc, la 12.4, c'est est-ce qu'il existe d'autres fournisseurs possibles? Donc, il s'agit de voir est-ce qu'il existe d'autres fournisseurs possibles.
D'accord. Donc...
Donc, peut-être voir les besoins spécifiques de la régie, peut-être voir aussi ce qui se passe ailleurs. Est-ce qu'il existe d'autres administrations publiques qui sont capables, qui ont été capables avec d'autres solutions? Peut-être ça aurait été, rien que ça, suffisant pour la régie pour constater qu'il existe d'autres alternatives et d'autres fournisseurs possibles.
Okay. Monsieur, je comprends. Donc, disons que la régie fonctionne... Donc, la régie fonctionne bien avec ce qu'elle a, mais elle pourrait décider... d'aller vers des logiciels libres et à ce moment-là faire une description de ses besoins, de ses fonctionnalités globalement ou sectoriellement et à ce moment-là aller en appel d'offres où vous seriez intéressé, vous, d'offrir vos services.
La régie a des besoins spécifiques en informatique. Son fournisseur actuel principal, elle n'a pas que Microsoft comme fournisseur informatique, lui impose de changer son infrastructure. Il lui impose que son fournisseur arrête de supporter les logiciels. C'est évidemment important pour la régie d'être supporté au niveau de son infrastructure informatique. D'ailleurs, ça n'apporte pas de ce que j'ai compris, en tout cas, parce que je n'ai pas les éléments. Les migrations n'apporteraient pas de fonctionnalités supplémentaires, en tout cas. Ça lui est imposé par son fournisseur actuel. Donc, elle, de ce que j'ai compris, elle a un plan de migration de son infrastructure. Tout ça, ça serait validé par des spécifications si elles étaient disponibles. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'il existe d'autres fournisseurs possibles, d'autres solutions possibles? La régie des rentes, en utilisant l'article 12.4, indique que non. Nous pensons que oui.
Ok. Attendez. On va faire une pause, monsieur, madame. Non, vous êtes prêts. Bon, M. Béraud, sous réserve des autres questions vont être posées par des confrères, moi j'ai terminé.